J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui en entrevue la députée de Manicouagan, Marilyn Gill. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Excellent. Le sujet de discussion aujourd'hui, Madame Gill, c'est un peu différent. La semaine dernière, vous avez appris en même temps que d'autres de vos collègues députés fédéraux, que vous avez été banni de Russie par le Kremlin. Ça a fait un peu les manchettes nationales, cette histoire-là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Bien, en fait, la semaine dernière, on recevait à la Chambre des communes par Zoom, bien sûr, par visioconférence, Vladimir Zelensky, donc qui venait à enjoindre, à inviter les parlementaires de tous les partis du Canada à appuyer l'Ukraine dans la guerre, parce qu'il faut bien le nommer. C'est une guerre que mène la Russie contre le peuple ukrainien. Donc, qui est venu s'entretenir avec la députation et vraiment, comme on le voit aussi, même en circonscription, donc les gens sont derrière l'Ukraine qui s'est fait envahir, hein, et qui, on le voit, là, près de la moitié de la population de l'Ukraine maintenant est sortie du pays parce qu'ils se réfugient dans les pays limitrophes. Bref, on a montré notre appui. Chacun des chefs, dont mon chef et François Blanchet pour le Bloc québécois, a parlé de ce qu'il fallait faire pour aider l'Ukraine. Et à peu près tout de suite après, il y a eu une communication des affaires étrangères russes où il y avait une liste qui comprenait la liste de parlementaires de la Chambre des communes qui étaient bannis, donc interdits de séjour, là, c'est ce que ça veut dire. J'ai pas le droit de mettre les pieds en Russie. Donc c'est ça, en alphabet cyrillique, là, j'ai appris comment écrire mon nom en alphabet cyrillique ou si vous préférez russe. Hein. Donc c'est ce qui est arrivé. Moi, l'intérêt que je trouve, parce que bon, ça peut paraître anecdotique, dire oui, on est banni d'un pays, ou c'est une mesure qui est quand même très importante symboliquement. Ça montre une rupture avec le Canada, puis pour moi, bien sûr, avec les députés du Québec. Mais ce qu'on voit à travers ça, c'est que la position des députés, la position de la population du Québec, du Canada, fait mal à la Russie. Donc, la Russie a voulu nous sanctionner. C'est certain que c'est symbolique, mais c'est là qu'on voit tout l'intérêt de se positionner et de faire des efforts justement pour soutenir l'Ukraine, parce que la Russie, évidemment, ça ne fait pas son affaire. Et même si on dit parfois que des États peut-être plus petits numériquement ou avec une armée qui n'a peut-être pas la même puissance que l'armée américaine ou l'armée britannique, il reste, ou française, il reste que les gestes qu'on fait comme parlementaires ont quand même un impact et font partie du grand mouvement d'opposition présentement de l'Occident à ce que fait la Russie au peuple ukrainien.
C'est quand même pas rien comme nouvelle non plus d'apprendre qu'on est banni d'un pays. Vous, en Chambre des communes, là, comment est-ce que vous avez réagi à tout ça? Comment est-ce que vous avez pris la nouvelle, en fait, malgré le positionnement que vous avez fait? Comment vous prenez ça comme nouvelle?
En fait, la première des choses, c'est une surprise, parce que je pense qu'aucun parlementaire qui s'attendait à ce que ce soit peut-être d'une part aussi rapide et aussi généralisé. Donc, parce que c'est pratiquement l'ensemble. Les raisons nous apparaissent arbitraires pour le moment. Il y a certains députés, certains ministres qui n'ont pas été interdits de séjour en Russie, donc ça ne couvre pas l'ensemble des députés du Parlement. Donc, la première, c'est une surprise en raison de la rapidité, puis comme je disais, de la presque généralisation. Ensuite de ça, ben, justement, pour moi, je veux voir le positif là-dedans, c'est certain, c'est justement la question que les actions qu'on pose, même si on a l'impression qu'elles n'ont pas un effet soit très rapide ou très important, en a quand même. Donc, il y a une force de frappe de la part des parlementaires. Donc, pour moi, j'étais, je vous dirais, satisfaite. C'était pas le but, évidemment, l'objectif recherché, mais en même temps, ça montrait que oui, il y a quelque chose de concret qui se produit lorsqu'on va se liguer comme ça, comme on l'a fait. Donc, pour moi, c'était vraiment, je ne veux pas dire un succès, là, le terme serait mal choisi, mais c'est ça, c'était efficace et on voyait que la parole de l'ensemble des États est importante et les actions pour faire en sorte qu'on donne un coup de main à l'Ukraine.
Et au moment où on se parle, le conflit est toujours en cours. Jusqu'à maintenant, c'est quoi la réponse du Canada qui est faite? Là, évidemment, vous travaillez plusieurs députés ensemble pour justement offrir une réponse. À quoi ça ressemble?
Ben, nous, au Bloc québécois, ce qu'on souhaite, ce qu'on martèle depuis plusieurs semaines, c'est que d'une part, évidemment, avec le Canada, les députés, du gouvernement, on proposait que ce soit très rapide pour que les gens puissent obtenir des visas ou qu'ils n'aient pas à les renouveler s'ils étaient déjà sur le territoire du Québec, du Canada. Donc ça, c'est déjà une chose. À partir du 17 mars, il y a eu un portail qui a été mis en fonction pour justement pour ces demandes-là de la part de l'Ukraine pour pas qu'il y ait de délai de traitement, que les gens puissent s'en venir. Sauf que la difficulté qu'on a, vous allez voir, c'est absolument concret. Puis nous, c'est ce qu'on pousse au Bloc québécois, c'est qu'il y a un pont aérien qui existe. Parce qu'on a beau avoir la permission de se rendre au Canada, de venir se réfugier, il reste qu'il faut être capable de se déplacer. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y a un pont aérien qui se rende du Canada, là, peu importe des endroits, qui se rende en Pologne, en Moldavie, bref, où il y a des réfugiés ukrainiens pour qu'ils puissent s'en venir ici, puis qu'on puisse les accueillir, comme sur la Côte-Nord. Là, c'est le gouvernement du Québec qui s'occupe de la portion accueil, je vous dirais. Donc, c'est le MIFI qui s'occupe de ça, mais reste, on est en contact avec tous les gens. Donc, on se prépare à les accueillir, mais si on n'a pas de moyen de transport, c'est impossible. Donc, nous, ce qu'on demande au gouvernement, puis on leur demandait hier encore, c'est créer un pont aérien, demander à des compagnies aériennes, Air Transat, je sais pas, Air Canada, on est capable de noliser des avions commerciaux qui vont se rendre dans ces pays-là et qui vont ramener les gens au Canada. Là, déjà que depuis le début janvier, la guerre n'était pas commencée à ce moment-là. Là, c'est vraiment à partir de la fin février, mais il y a quand même 9000 Ukrainiens qui sont déjà arrivés ici, mais il y avait d'autres possibilités avant. Là, il faut vraiment qu'on arrive à avoir un moyen de transport. Sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau. On leur permet de venir, mais ils n'ont aucune façon de se rendre jusqu'ici. Donc, on n'aide pas les Ukrainiens comme ça. Donc, je vous dirais que c'est vraiment ce qu'on défend principalement, que ça soit mis en œuvre très rapidement parce qu'ils sont déjà prêts. Là. Ça fait une semaine que le portail existe. Donc, dans les jours qui viennent, étant donné qu'il n'y a pratiquement pas de délai, ils vont être en mesure de venir. Donc, il faut vraiment se dépêcher. Ça, c'est une chose, mais évidemment, on demande également de l'aide humanitaire accrue. Puis, évidemment, des armes. Bien sûr, on est pacifiste, mais à un certain moment, une arme devient également défensive, pas nécessairement offensive. Évidemment, les Ukrainiens ont besoin de l'ensemble de la communauté internationale qui veut bien appuyer l'Ukraine d'armes supplémentaires pour être en mesure de défendre le territoire. On a vu à quel point ça s'est accru, comme les bombardements, par exemple, sur certaines des villes principales, le siège de Mariupol, c'est énorme ce qui se passe là-bas, une ville assiégée, là. Pas d'eau, pas de nourriture, pas d'électricité pendant, on est rendu à des semaines, donc... C'est ça. Il faut qu'il y ait de l'aide qui soit apportée très, très rapidement, plus importante que celle qu'on avait offerte au début.
Et présentement, la Chambre des communes, est-ce que c'est vraiment le sujet du moment présentement ou il y a d'autres dossiers qui sont toujours en discussion, comme c'est souvent le cas?
Il y a il y a tellement de sujets au même moment. C'est certain qu'il y a celui de l'Ukraine. On est dans une question d'urgence pour le peuple ukrainien. Donc, c'est certain que c'est un des sujets. Je dois vous dire que nous, sans que ce soit un projet de loi ou une crise, et bien évidemment, la nouvelle qui est tombée hier, qui a surpris peut-être tout le monde, nous a surpris à moitié avec le NPD qui forme non pas une coalition officielle avec les libéraux, mais bref, on est face à un gouvernement maintenant majoritaire en raison d'une association, ce qui nous fait craindre énormément au Bloc québécois, au sens où ils veulent d'abord tout centraliser, là, les dossiers qui sont ceux du Québec, là, plutôt que de donner de l'argent au Québec, le gouvernement veut s'occuper de la santé, mais ça relève pas du gouvernement fédéral. Bon, c'est un exemple. Moi, je le vois pour la question de la langue, là, les projets de loi qu'on dépose, les NPD, les libéraux sont pas en faveur de ce que veut le Québec lui-même. Moi, je peux parler du Bloc québécois, mais même du Québec, l'Assemblée nationale sont pas d'accord avec ce que proposent les libéraux et le NPD. Bien entendu, là, ils font une bête à une tête maintenant. Et ensuite, je sais pas, la loi sur la laïcité, par exemple. Donc, les deux partis sont contre cette loi qui a été adoptée de façon légitime par par l'Assemblée nationale. C'est majoritaire, c'est au Québec, donc ça ne concerne pas le Parlement canadien, mais eux, encore une fois, veulent s'immiscer là-dedans, veulent contribuer à ce qu'il y ait des... Est-ce qu'il y a des contestations de la loi en Cour suprême, de sa constitutionnalité? Bref, on voit le danger où, là, c'est certain qu'il y avait des discussions, c'était fallait faire des compromis, bien entendu, parce que c'est un gouvernement qui est minoritaire. Pour se maintenir, il faut qu'il écoute les autres, ce que devrait faire tout gouvernement, je l'avoue, mais parfois c'est dans le fonctionnement, la composition qu'on le voit vraiment, tandis que là qu'il y a une association vraiment où il risque d'y avoir des baillons, c'est-à-dire qu'on nous permet même pas de débattre, mais qu'on décide de voter tout de suite pour faire passer l'agenda du gouvernement. Nous, c'est vraiment un des points d'inquiétude. Mais en même temps, on se dit qu'il y a vraiment les partis se discréditent quand deux partis ont à peu près les mêmes idées à un certain moment. Je vois plus la pertinence de l'un ou de l'autre, ou peut-être de faire une union comme certains partis l'ont fait auparavant. Je pense au Reform Party, par exemple, au Parti progressiste conservateur, ou dans le temps de l'Alliance canadienne. Bref, ils voyaient qu'ils avaient à peu près les mêmes idées, donc ils sont joints. Puis en même temps, je trouve aussi que le NPD et les libéraux, ils sont un peu entre... en fait, c'est pas vraiment une réelle coalition comme il est possible d'en former une, où par exemple, M. Singh deviendrait vice-premier ministre du Canada. Donc, c'est sur le plan du contenu, oui, ils sont ensemble, mais sur le plan de la forme, ben, ils sont un peu intouchables. Donc, nous, on se pose la question. On a quand même un parti qui est au gouvernement, si on veut, le NPD, mais qui siège dans l'opposition, puis qui a des je dirais pas les privilèges, mais les droits qu'on a comme parti d'opposition. Donc, c'est un peu particulier. Je trouve que la démocratie et le choix des électeurs n'ont pas été respectés en faisant une alliance comme ils l'ont fait.
Le temps file assez rapidement. On va devoir se quitter, Marilyn Gill. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se dit à la prochaine.
Merci beaucoup. À la prochaine.
Ce reportage vous a été présenté par l'Initiative du journalisme local.